Hey, Théoma Sotiaritse, bienvenue.
Bonjour, bon après-midi, bienvenue à tout le monde.
Merci. Ça fait rêver, hein ? Vous trouvez pas ? Il faut dire que dès qu'on dit le mot Grand Nord, ce qui est toujours extraordinaire, c'est que dès qu'on dit ces deux mots, Grand Nord, dans la tête des gens, il y a des tas d'images qui apparaissent. Les premières, c'est les igloos, évidemment. On voit des igloos, la banquise, la glace, le blizzard, le grand froid. De temps en temps, on voit aussi le phoque. L'ours polaire, c'est immanquable. Nanook le terrible, l'animal le plus respecté. Toutes ces images-là, elles arrivent dans la tête des gens dès qu'on parle du Grand Nord. Et puis on rêve du Grand Nord. Qui n'a pas rêvé d'aller dans le Grand Nord ? Nous, les Blancs, vous et moi, parce que les Inuits nous appellent des Blancs, des Ranoulaks, des gros sourcils épais. Ben, on est des Ranoulaks, alors nous, quand on regarde le Grand Nord, on rêve de tout ça. Seulement, il y a deux grands nords. Il y a celui des Blancs, auquel j'appartiens, puis il y a celui des Inuits. C'est le même, et pourtant, on ne le voit pas pareil. Nous, les Blancs, on rêve de ces grands espaces que les gens appellent désertiques, solitude. Il n'y a rien de désertique dans le Grand Nord. La preuve, c'est que ça fait 5000 ans que les Inuits habitent ce territoire au Nunavik. Si c'était désertique, il y a longtemps qu'ils seraient partis. Pour nous, c'est un territoire où ça ne vit pas. Il y a de la vie. C'est un territoire où on imagine toujours la glace, le froid. Ce n'est pas toujours froid. Il ne faut pas confondre là où habite le Père Noël, la calotte glaciaire, et ce qu'il reste du Grand Nord, le Nunavik ou autre, où effectivement, ça peut être blanc, mais vous le verrez tout à l'heure sur certaines images déjà. Il y a aussi plein de couleurs dans le Grand Nord. L'automne, c'est très beau. Il y a des couleurs, hein, c'est beau. Et puis, il y a plein de fleurs aussi dans le Grand Nord. Seulement, les gens s'imaginent qu'il n'y en a pas. Ce Grand Nord, on vous invite à un voyage aujourd'hui. Vous allez voyager avec moi, puis avec Nina et Tarlik. Et tout simplement, on va vous emmener dans un espace qui n'est peut-être pas celui que vous imaginez. Il faut vous dire que le Grand Nord, autrefois, dans des temps, j'appellerais très anciens, ce Grand Nord ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut s'y rendre, il suffit d'aller à Dorval, d'embarquer dans un avion de First Air, et puis de s'en aller tout Kodjouak. C'est tranquille, hein ? Bel avion, on a de quoi manger, on a tout ce qu'il faut, c'est confortable. On arrive à Kodjouak. Alors, quand on est blanc et qu'on s'attend au Grand Nord de nos images, on est un petit peu surpris, parce que Kodjouak, c'est une ville. Une ville où les gens vivent comme vous et moi. Seulement, ça n'a pas toujours été comme ça. Pour vous dire qu'avant que ce territoire soit ce qu'il est, on dit qu'au temps très ancien, il n'y avait rien. Il y avait juste une grande étendue d'eau. On ne savait même pas si ça s'appelait la mer ou autre chose. Et au milieu de cette étendue d'eau, il y avait une île. Une île qu'aujourd'hui les gens appellent l'île de Miliujak. Sur cette île, il n'y avait rien, sauf deux petites collines de terre. Et puis, à un moment donné, les deux collines se sont ouvertes. Et de chacune des collines, on a vu sortir un homme. Les deux hommes, ils ont commencé par regarder autour d'eux, parce qu'ils étaient très surpris de voir ce qu'ils découvraient. C'était la première fois qu'ils découvraient cette terre. Ils ont bien vu qu'il y avait de l'eau autour. Ils ont bien vu qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux. Alors ils sont sortis de leur colline et ils ont fait le tour de l'île. Ils n'ont rien trouvé d'autre que de la roche, de la terre, quelques petits buissons tout petits, mais aucun être vivant. Au début, ces deux-là, ils s'entendaient bien. Et finalement, à la longue, ils ont commencé à s'ennuyer de n'être que deux sur cette île. Alors il y en a un qui s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'être plusieurs? Le problème, c'est que c'était difficile, puisque c'était deux hommes, et qu'il est difficile qu'un bébé naisse dans le ventre d'un homme. Donc l'un des deux est parti à l'intérieur de l'île, et là, il s'est assis sur une petite roche, il a regardé le ciel, il a regardé cette étendue d'eau. Il était difficile de croire où était le ciel, où était l'eau, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni jour, ni nuit. C'était entre les deux. Et il s'est dit, je devrais faire quelque chose. Et comme il y avait un silence très lourd, il s'est dit, je vais inventer un chant. Et il a inventé le premier chant chamanique, le premier chant secret, un chant magique. Il a inventé ce chant, il est revenu voir son compagnon, il a chanté devant lui, et l'autre s'est changé en femme. Chant chamanique. Mais là, eh bien, les humains pouvaient commencer à se multiplier. Alors évidemment, on savait comment naissaient les bébés maintenant. Il suffisait d'avoir un homme et une femme. Donc on a commencé à voir les gens se multiplier sur l'île. Par contre, certaines femmes n'avaient pas trop envie d'avoir un bébé comme ça avec un homme. Alors on savait quoi faire. Parce que les enfants, les bébés, ils poussaient dans la terre aussi. Alors les garçons poussaient sur le bord de l'eau. Les filles, il fallait aller à l'intérieur des terres. Alors on allait cueillir comme ça des garçons, des filles. Et à un moment donné, il y a même eu beaucoup plus de filles que de garçons. Pour vivre, on se débrouillait comme on pouvait, parce qu'effectivement, il y avait bien quelques animaux qui sortaient de sous la terre aussi. Seulement, on ne voyait pas bien les animaux, puisque c'était sombre. Alors, pour essayer de les attraper, les hommes, ils mettaient leurs doigts dans la neige, parce qu'il y avait de la neige sur le sol, ou bien ils mouillaient leurs doigts et ils le levaient. Et ça servait à éclairer un petit peu. Et là, ils pouvaient voir les quelques animaux qu'ils pouvaient essayer de manger. Pour vous dire qu'à cette époque-là, les animaux et les humains, ce n'était pas comme aujourd'hui. On pouvait devenir un humain si on était un animal, et un animal si on était un humain. Et tous deux parlaient le même langage. La seule différence, c'était l'odeur. Les animaux avaient une odeur plus forte. Bon, pour se déplacer, pour aller cueillir des bébés ou pour chasser et avoir de quoi manger, ce n'était pas très difficile non plus. Ils avaient à l'époque des cabanes. Eh bien, il suffisait tout simplement de demander à l'esprit qui habitait la cabane ou l'igloo l'hiver de lui demander de se déplacer. Et les esprits faisaient en sorte que les maisons se déplaçaient toutes seules. Donc, on n'avait même pas besoin de sortir de la maison pour s'en aller cueillir un bébé ou pour s'en aller attraper de quoi manger. Le problème, c'est que ça n'a pas duré très longtemps. Parce que les esprits des maisons étaient assez joueurs de tours qu'à un moment donné, eh bien, les maisons penchaient, ou les igloos, et les bébés qui étaient sur la plateforme de couchage, quelquefois, ils tombaient et il y a eu quelques morts subites. Donc, les humains ont demandé aux esprits d'arrêter. Et les humains se sont dit qu'ils pouvaient voyager eux-mêmes. Ce qui était bien à cette époque-là, et là je vais faire des jaloux, j'en vois pas mal dans la salle qui vont envier cette époque-là. On ne vieillissait pas. Vous ne rêvez pas de ne pas vieillir ? J'en vois déjà qu'on le sourire, qui se disent comment ils faisaient pour ne pas vieillir. Ah, un secret inouï, est-ce que je leur dis ou je leur dis pas ? Est-ce qu'on le garde pour nous ou je leur dis ? Qu'est-ce que tu en penses, Nina ? On peut partager ? D'accord. Nina est généreuse, moi je l'aurais gardé pour moi. Mais c'est pas grave, je vais partager. Alors, c'est pas compliqué, d'ailleurs, vous pourrez essayer ce soir même en sortant, pas dans la salle, s'il vous plaît. À l'époque, les Inuits savaient que pour ne pas vieillir, quand tu commençais à être un petit peu fatigué, que tu commençais à voir que le temps quand même t'engourdissait un petit peu les muscles et les doigts, il suffisait de faire une galipette avant, tu te relevais et tu étais jeune. Vous n'avez pas envie ? J'en vois déjà qui se regardent, c'était une belle solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne sait faire des galipettes de ce genre-là. Et ben, la vie s'installait sur l'île de Miliujak de cette façon. La seule chose, c'est que je vous l'ai dit, il n'y avait pas de lumière vraiment, il n'y avait pas de jour vraiment, et tout a commencé à changer avec Corbeau. Pour vous dire que Corbeau, à cette époque-là, il était encore tout blanc. Et Corbeau, lui, bah, il trouvait quand même dommage d'être obligé d'aller se cogner le bec pour essayer de trouver de quoi manger, et il s'est dit, tiens, je devrais peut-être faire quelque chose. Puisque les humains ont inventé le chant chamanique pour savoir comment se multiplier, eh ben moi, je devrais inventer un chant pour créer la lumière. Alors, Corbeau est parti à l'intérieur de l'île. Il s'est installé sur un petit rocher. Il a regardé le ciel. Il a regardé l'eau, ou du moins ce qu'on pouvait en entrevoir. Et là, il s'est dit, j'invente le chant chamanique pour qu'enfin on puisse voir clair. Et il a poussé son premier cri. Kaak ! Kaak, Kaak, le mot qui désigne la lumière. Et aussitôt sur l'île, on a vu apparaître une lumière que personne n'avait jamais vue. Et autant vous dire que les humains, ils étaient non seulement surpris, mais en même temps heureux. Parce que pour la première fois, on pouvait deviner, voir les couleurs. On n'était pas obligé de toucher ou de sentir. On regardait les choses, on les voyait, on regardait le visage de ceux qui étaient à côté de nous, on le voyait pour la première fois. Et là, je vais vous dire, les humains étaient heureux. Ils ont remercié Corbeau. Et Corbeau était très fier. Très fier, je vais vous dire, de son coup. Et Corbeau se promenait partout et tout le monde lui disait « Merci, Corbeau. Grâce à toi, notre monde est différent. » Ça n'a pas duré longtemps. Il y en a un qui n'était pas du tout content de ce que Corbeau venait de faire. Renard. Parce que Renard, lui, l'obscurité faisait son affaire. Il était déjà l'être qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, quand on parle des renards, rusé comme un renard, hypocrite comme un renard. Eh bien, Renard, déjà à cette époque-là, il adorait aller chercher ce que les humains cachaient derrière les roches, mais en cachette, et comme il faisait sombre, ça l'arrangeait. Il n'a pas trouvé de son goût la création de la lumière. Tellement pas de son goût qu'il a dit dans sa tête, si l'humain et Corbeau ont été capables de créer un chant sacré, je dois pouvoir faire pareil. Et Renard est parti à l'intérieur des terres. Renard s'est installé sur son rocher. Il a regardé le ciel, il a regardé l'eau, et cette fois, il les voyait. Il les voyait tellement bien que ça le dérangeait. Et il a décidé de créer son propre chant chamanique. Tac ! La nuit, le noir total. Et d'un seul coup, tous les humains se sont retrouvés dans le noir total. La panique, on ne voyait plus rien. La peur s'est emparée d'eux. Corbeau, aussitôt, lui, bah, il a décidé de reprendre son chant chamanique. Il a repoussé son cri, cac ! Aussitôt suivi de la réaction de Renard, tac ! Cac, tac, cac, tac, et ainsi de suite, à tel point que les humains en devenaient un peu fous, comprenaient plus. Heureusement, ces deux-là se sont fatigués, tellement fatigués que ça a été beaucoup moins vite leur lutte. Tac, cac,
tac, cac. Tellement fatigués qu'à un moment donné, ils se sont dit tous les deux, on pourrait peut-être trouver une autre solution. Et l'autre solution, ils l'ont trouvée. Renard et Corbeau se sont assis face à face et ils se sont dit, plutôt que de s'obstiner, si on partageait la lumière et le jour. Et l'entente a été conclue entre Corbeau et Renard, et c'est depuis ce jour-là, je vous l'apprends, que dans le monde inuit, et probablement dans votre monde aussi d'ailleurs, qu'on se partage la journée entre une période de lumière et une période de noirceur. C'était ce monde qui était comme ça. La seule chose, c'est que comme on ne vieillissait pas, on ne mourrait pas non plus. Mais ça, personne ne s'était posé la question. Et un jour, les humains se sont aperçus, les Inuits qui étaient sur l'île, qu'ils penchaient tous d'un bord. Alors, ils n'ont pas compris pourquoi. Donc, ils ont décidé d'essayer de voir ce que ça donnerait de l'autre côté. Donc, ils se sont précipités de l'autre côté de l'île et ils se sont tous mis à pencher de l'autre bord. Ils sont revenus tous vers le milieu de l'île et c'est une vieille femme qui leur a dit ce qui se passait. Une vieille femme qui les a regardés et qui leur a dit « On est trop nombreux sur cette île et l'île va s'enfoncer et disparaître dans les eaux. Il faut faire quelque chose. » Faire quoi ? La vieille qui s'appelait Umar Naituk, elle les a laissés chercher pendant quelque temps. Elle est allée à l'intérieur de l'île, elle s'est installée sur le rocher, elle a regardé le ciel, elle a regardé l'eau, elle est revenue et elle leur a dit qu'elle avait trouvé la réponse. Il fallait créer la mort. Et la mort a commencé à faire son travail à partir de ce jour-là. Comme il a fait son travail, comme la mort a bien travaillé, le monde inuit a continué à vivre. Effectivement, on s'est équilibré. Et puis le temps a passé, parce que dans la vie, il passe plus vite que dans les histoires. Et on s'est retrouvé aujourd'hui avec ce territoire qui s'appelle le Nunavik, avec cette ville de Kudjouak. Et puis, on voyage dans ce Grand Nord. Mais voyager dans ce Grand Nord, ce n'est pas toujours évident. Parce que vous savez ce qu'il faut pour voyager dans le Grand Nord ? D'abord, lâchez vos montres et laissez-les dans le fond de votre siège. Deuxième des choses, quand vous allez arriver à Kudjouak, vous allez voir plein d'enfants qui vont courir partout. Surtout, n'allez pas les empêcher de courir. Parce que dans la culture inuite, c'est pas comme dans la culture blanche. Chez les Blancs, le papa ou la maman disent « Chérie, fais pas ci, chérie, fais ça. Tu mets pas tes doigts dans ton nez. » Chez les Inuits, on ne dit jamais rien. On montre, l'enfant observe et il apprend en observant. Seulement nous, on n'est pas habitués. Alors on veut s'occuper des petits, surtout les mamans des fois. Et ça, c'est choquant. Parce que la maman inuite, qu'est-ce que ça lui dit ? Les Blancs sont en train de te dire que tu ne t'occupes pas bien de tes enfants ? Hein ? Bon, ça, on l'oublie vite. Mais c'est le voyage après. Je veux juste vous raconter une petite anecdote. Moi, je devais aller pour la première fois, quand je suis allé dans le Grand Nord, dans un village qui s'appelle Kanziksoudjouak. Mais moi, comme ça se terminait partout en hak, Kwartak, Kudjouak, Kangiksoloudjouak, Kangiksoudjouak, pour moi, c'était du pareil au même. Donc à Kudjouak, j'ai embarqué dans un bel avion, le Twin Otter. T'aimes ça, hein, Tahalik, le Twin Otter ? Oui, c'est un avion tout petit, c'est bien parce qu'on est très nombreux dedans, on se tient au chaud. C'est bien parce qu'il ne fait pas très chaud dans l'avion. Et moi, quand je monte dans un avion, je cherche tout de suite la sortie de secours. Je suis désolé, je ne suis pas courageux. Je ne suis pas un explorateur du Grand Nord. Donc moi, je cherche la sortie de secours. Et la première fois que je l'ai vu dans un Twin Otter, j'ai vu l'étiquette, enfin la petite signe lumineux, sortie de secours, et j'ai cherché où était la sortie. Parce qu'on avait mis tous les bagages devant. Remarquez que c'est bien parce qu'au bout de 10 minutes, on nous a fait redescendre de l'avion. On nous a dit que le mauvais temps avait pris. Le blizzard soufflait sur la côte, donc il fallait qu'on attende un peu. On a attendu 3 jours. Donc deuxième chose qu'il faut que vous appreniez quand vous allez voyager. Il y a un mot inuit qui se dit « imma ». Imma, c'est un peu le « prends ton temps et ne vous énervez pas ». Ça fait comme je veux prendre mon temps pour continuer le voyage, ben je vais demander à Nina puis à Tarlik de venir chanter. Comme ça, moi, je vais pouvoir faire Imma tranquille. Allez.
Je m'appelle Nina Segalowicz. Je vais vous, on va parler un peu de d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. J'étais menée à Fort Smith, territoire nord-ouest, qui est juste sud de Yellowknife. Et puis à l'âge de à peu près 11 mois, j'étais adoptée. J'étais élevée à Montréal. Et puis, à l'âge de 18 ans, c'était vraiment la première fois que j'ai rencontré des personnes autochtones. Et puis, depuis ce jour-là, c'est un voyage que j'ai fait pour me reconnecter avec la culture inuit, autochtone. Et puis, à travers le chant de gorge, depuis, ça fait 10 ans que je le fais, ça m'aide à me connaître, à connaître les femmes inuites, à connaître la culture d'où je viens. Et puis, c'est ça. Je suis une mère de 2 enfants. Et puis, il y a ma fille qui connaît, qui sait, qu'elle sait comment chanter aussi. Elle est un peu gênée, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle le sait comment le faire. Parce que le chant de gorge, ça se, c'est transmis de mère en fille. Mère en fille, ou grand-maman en fille. Et puis, je prends la chance de, parce que j'étais élevée dans un milieu non autochtone, non inuit, je peux marcher très bien entre les deux mondes. Alors, quand j'étais petite, j'avais les cours dans la langue juive, parce que mon père est juif, et aussi j'allais dans les cours de Tagalog, parce que ma mère vient de Philippines. Ouais. Alors, j'étais un peu mélangée parce que je voyais, quand je rentrais dans le synagogue, tout le monde qui faisait des prières, puis moi j'en connais par cœur. Et j'allais à l'église, puis je pourrais prier. Mais en grandissant, je n'étais pas très sûre qui j'étais. Parce que même si j'étais confortable dans le monde juif ou dans le monde philippine, qui j'étais moi? Parce que je regardais dans le miroir et les réflexions, ça, c'était pas la même entre les deux cultures que j'étais élevée. Et puis, aujourd'hui, je me sens très confortable dans les trois cultures. Alors, soit dans la culture juive, puis je fais la Pessah, le Passover, ou je peux prier dans l'église le dimanche, ou je peux faire le chant de gorge. Alors j'essaie de faire un mélange de trois, les trois cultures d'où je viens, dans mon passé et dans mon futur, puis j'essaie d'enseigner la même chose avec mes enfants.
Merci.
Expliquer ici un peu le chant de gorge. C'est un passe-temps que les femmes inuites faisaient il y a longtemps. Et puis, après qu'on a fini les tâches à la maison, puis les hommes y partaient chasser, c'était un passe-temps pour nous. Puis aussi, c'était une compétition. Alors, par exemple, si ta collègue avait un habit que moi je voulais, je pourrais faire le chant de gorge avec elle. Et celui qui rigole en premier, c'est elle qui perd. Alors c'est pour ça qu'on rigole à la fin.
Et c'est presque toujours moi qui rigole en première.
Alors c'est pour ça qu'on rigole beaucoup à la fin.
Je vais peut-être dire que dans la culture inuite, le rire, c'est fondamental. Et je pense que comme blanc, on aurait beaucoup à apprendre de la culture inuite, de savoir rire pour vrai. Et vous pouvez rire vous aussi. Hein.
J'essaie d'apparaître.
Merci.
Merci.
D'accord, Mick. Le rire. Fait du bien le rire. Moi, par contre, je veux dire que la première fois que je suis arrivé dans un village inuit, je n'ai pas rigolé. Non, je sais, ça vous fait rire vous, mais moi, je ne rigolais pas. D'abord parce que l'avion, à un moment donné, bon, le petit twin otter, c'est très agréable. On est très proche de son voisin. Moi, je m'étais mis dans le fond. Et puis, à un moment donné, l'avion descendait et je cherchais où était le village. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu l'avion descendre. Et j'avais beau regarder à droite et à gauche, je ne voyais que du blanc. Bon, évidemment, ça impressionne. Vous me direz, c'est normal, c'est dans le Grand Nord. Le problème, c'est qu'un avion qui se pose, en général, il se pose près d'un village. Et qu'en fait, là, j'ai vu l'avion se poser en plein milieu de nulle part. J'ai vu les Inuits se lever, descendre. Et là, moi, dans ma tête, c'était, ça y est, problème mécanique. On est pris en plein milieu de nulle part. Et comme j'étais pas habillé, j'étais habillé comme les gens du Sud, donc pas de manière très chaude, je me suis dit, je vais me geler ici. Et les Inuits sont sortis en rigolant. Et puis, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit, c'était le copilote, qui m'a demandé si j'étais dans le bon village. Je lui ai dit non. Mais je lui ai dit, il est où le village ? Il m'a dit, tu te demandes où il est. Hein? Il m'a dit, t'inquiète pas. Je lui ai dit, mais je ne connais personne. Et j'ai vu les motoneiges arriver. On venait nous chercher. En fait, l'avion se posait sur le haut d'une colline et le village était en bas. Et c'est quand j'ai vu ce village que j'ai eu un choc parce que je m'attendais à un vieux village. Et j'ai vu des belles maisons rouges, jaunes, vertes, bleues. C'est surréaliste dans le Grand Nord. Mais la chose la plus drôle, c'est qu'au bout de quelques jours, j'étais invité dans l'école, parce que l'école est le lieu où ont lieu toutes les réjouissances de la communauté. Et une anecdote drôle, c'est qu'à un moment donné, tout le monde, tout le village était là, dans le gymnase, assis tout le monde autour. Il y avait de quoi manger. On m'a invité à manger du caribou, du phoque, du mactac. Ma martouk, hein. C'est bon le mactac. Le mactac, c'est du gras de phoque. Prenez pas des airs dégoûtés, c'est bien meilleur que le gras de porc. Et à un moment donné, bon, il y avait trois vieilles femmes qui étaient au milieu du gymnase de l'école et qui étaient habillées avec des beaux manteaux comme ça, mais qui avaient l'air plus chaud. Et je me disais, mais qu'est-ce que font ces trois vieilles femmes? Il faisait chaud dans le gymnase. Moi-même, j'avais chaud avec leurs grands manteaux. Et elles marchaient comme ça, tranquillement. Et je me suis dit, peut-être qu'elles sont vieilles, donc elles ont froid et elles gardent leurs manteaux. Et puis, il y avait une jeune fille qui avait peut-être une quinzaine d'années qui avait un bébé. Parce que, bon, j'adore les bébés, donc je m'en vais vers elle et je lui fais signe que je voulais prendre le bébé. Alors, il n'y a pas de problème, elle me laisse le bébé. Belle tête ronde, baveux à souhait. Je prends le bébé, je le colle contre moi et je me mets à lui chanter une petite comptine qu'on nous chantait quand on était petit. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la mange. Je me mets à lui chanter ça. Seulement, bon, on fait ça en balançant comme avec mes petits-enfants. Et paf, le petit, il s'endort. Parce que la langue inuite et la langue française étant très différentes, la langue inuite, ça l'a comme... Il était habitué, tandis que là, elle n'était pas habituée, ça l'a bercé. Et le voilà qui s'endort, la tête tombe sur moi. Et au même moment, j'entends des éclats de rire énormes partout, tout autour du gymnase. Les doigts se pointent. Tout le monde parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Et là, un peu paniqué, je regarde la jeune fille, elle a l'air de dire, viens prendre ton bébé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et elle avait le sourire fendu jusque-là, elle rigolait partout. Et les trois vieilles femmes qui foncent vers moi, et là, j'ai paniqué en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et qui commence à me toucher en rigolant. Et le directeur de l'école, qui était un blanc, comme la plupart des blancs dans les villages sont souvent directeurs d'école, vient me voir et me dit, Jacques, bravo. Pardon. T'es le premier homme blanc à gagner un concours de femmes inuites dans le village. Vous allez voir qu'on apprend à rire. Et là, il me dit, tu vois, regarde les trois vieilles femmes. Chacune avait un bébé dans la capuche de la maoti, dans le manteau. On ne le voyait pas. Et en fait, elle parlait, elle regardait. Et la première qui endormait le bébé avait gagné. Parce que les Inuits adorent jouer. C'est moi qui ai gagné. J'aime autant vous dire que pendant 3 jours dans le village, j'ai appris à rire. Je ne comprenais pas, mais je savais ce qu'on disait. Alors, ça aussi, c'est le Grand Nord. C'est aussi la culture inuite. Cette capacité des Inuits, moi qui m'a toujours fasciné, de savoir rire, de savoir ne pas dramatiser, d'être capable de traverser des drames avec un sens humain extraordinaire. Et quand la page est tournée, elle est tournée, on rigole. Mais ça, ce n'était pas le plus beau du Grand Nord pour moi. Le plus beau, c'est qu'un soir, je suis sorti du village et là, j'étais revenu à Tassiouillac. Donc, c'est un village au bord de la rivière aux Feuilles. C'est très plat, il y a quelques petites collines. Et j'ai décidé d'aller me promener. Alors, vous êtes dans le parka. Il fait peut-être moins 30, moins 35. On est dans une petite bulle de chaleur. La nuit est superbe, très noire, beaucoup d'étoiles. Et je m'éloigne un peu du village pour ne pas être pris par... Parce qu'il y a des lampadaires dans les villages. Donc je m'éloigne pour voir le ciel noir, les étoiles absolues. Et à un moment donné, j'étais tranquille, je regarde. Et dans le ciel, je vois apparaître une grande bande blanche. Et cette bande blanche, d'un seul coup, se met à virer au vert. Et à différentes teintes de vert, je venais de voir les premières aurores boréales. Et je peux vous dire que c'est un spectacle extraordinaire. Quand à un moment donné, ce ciel immense, on voit ces espèces de grands rideaux verts qui se baladent dans le ciel à toute vitesse, c'est fascinant, tellement qu'à un moment donné, je me suis couché dans la neige pour regarder ça. Il y a un Inuk qui est passé, il a cru que j'étais mort ou malade. Il s'est arrêté tout de suite, est descendu de la motoneige, m'a secoué pour voir ce que j'avais. J'ai dit, ça va ? Il a cru que j'étais malade. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la neige, comme ça, couché là ? Je regarde les aurores boréales, je regarde Arsenic. Vous avez vu, vous avez rigolé. Hein ? Parce que quand on vit avec ça... Quoique, je vais vous donner un conseil. Si vous allez dans le Grand Nord, méfiez-vous donc des aurores boréales. Ça, je l'ai appris, moi. Remarquez que je ne me suis pas trop méfié même après parce que moi, je suis assez grand. Mais on raconte que ces aurores boréales, quand on est un enfant, il faut s'en méfier. Je vais vous dire pourquoi. On raconte cette histoire à un moment donné que dans un village, une communauté qui vivait dans les igloos, il y avait trois jeunes qui, à un moment donné, les jeunes étant tous comme ils sont, aimaient bien faire un peu des mauvais coups. Donc ce qu'ils faisaient, il y en avait deux plus vieux puis un plus jeune. Les deux plus vieux, ils rentraient dans le petit porche qui est devant l'igloo. Parce que dans un igloo, il y a un petit porche en avant où on met les choses. Et puis eux, ils attrapaient les bottes, les affaires, puis ils les jetaient dans l'igloo, puis ils partaient à courir. Seulement, on a vite fait le tour des igloos d'une communauté. Ce qui fait qu'à un moment donné, les deux plus vieux ont décidé de marcher, de partir sur la banquise. Et le petit derrière, ben lui, il essayait de suivre. Le problème, c'est qu'il avait de la misère à suivre parce que les deux grands marchaient plus vite que lui. Alors à un moment donné, il a eu un petit peu peur. Il a mis les mains dans les poches de son parka. Il a penché la tête puis s'est mis à siffler. Il ne faut jamais siffler certaines nuits. Il avait tellement penché la tête qu'il n'a pas regardé là-haut dans le ciel. S'il avait regardé dans le ciel, il aurait vu qu'il y avait une bande blanche qui se préparait et qu'elle allait être suivie par les grandes bandes vertes dans le ciel, les aurores boréales. Il avait tellement peur qu'il s'est mis à siffler très fort et les autres en avant l'ont entendu. Ils ont crié pour lui demander d'arrêter. Mais le petit, il n'entendait rien. Les poings serrés dans les poches de son parka, avec la peur, il sifflait parce que quand il s'est retourné, il ne voyait plus rien. Alors les aurores boréales l'ont quand même averti qu'on ne siffle pas la nuit lorsque les aurores boréales sont dans le ciel. On leur laisse la place. Elles l'ont averti parce qu'elles ont envoyé un léger coup de vent, qui a laissé la neige, la petite neige qui court sur la glace, partir en tourbillon autour de lui. Il aurait dû s'en rendre compte. Il aurait dû faire attention. Mais tellement pris par sa peur, il n'a pas vu, il n'a pas fait attention. Les aurores boréales, ça ne leur a pas pris de temps. Quand elles ont vu que le petit n'avait pas compris et qu'il continuait à siffler, elles ont descendu, elles lui ont coupé la tête et elles sont parties jouer au ballon avec. Vous êtes avertis si vous allez dans le Grand Nord. Remarquez que je vous dis ça, mais c'était il y a quand même longtemps, autrefois, qu'on comptait cette histoire, comme celle de ce petit orphelin. C'est très drôle parce que dans la culture inuite, très souvent, celui qui n'était pas comme les autres, c'était pas toujours facile de survivre. Et on raconte l'histoire de ce petit garçon. Ses parents étaient à un moment donné morts dans un blizzard, donc il était orphelin, et puis en plus il était maladroit. Alors c'est pas compliqué, quand il prenait ses bottes, les camis qui mettaient la gauche dans la droite, le pied droit dans la botte gauche et l'inverse. Il n'était pas capable de tenir son harpon, il n'était pas capable d'essayer de monter un igloo correctement. Fait qu'à un moment donné, effectivement, on se moquait de lui. Remarquez ça, il n'y a pas que chez les Inuits. Et puis comme on se moquait de lui, à un moment donné, il ne savait plus quoi faire, il avait pris l'habitude de mettre les mains dans ses poches. Tout simplement. Alors on l'a appelé celui qui a mangé ses mains, parce qu'on ne voyait plus ses mains. Et puis il a grandi, le temps a passé, et puis il était devenu un jeune adulte, et puis il voyait bien que les hommes partaient avec les amis de son âge pour aller chasser. Il avait envie d'aller chasser avec eux, envie d'aller chasser le phoque. Seulement les autres lui disaient « Non, tu restes là, t'es trop maladroit, on veut pas te voir, tu vas nous porter malheur. » Mais lui, il voulait. Et puis un jour, il a décidé de les suivre en cachette. Les hommes partaient pour quelques jours, s'en allaient jusqu'au bord de la baie. La baie était prise par les glaces. On pouvait aller attraper le phoque au-dessus du trou, au-dessus de la glou, se mettre juste au-dessus, l'appeler le phoque, attendre avec son harpon. Mais les plus braves et les plus courageux, eux autres, ils n'attendaient pas au-dessus du trou. Ils s'en allaient là où il y a les eaux fumantes. Là où la glace est tellement mince, tellement fragile, que quand on y met le pied, la glace, elle bouge. Mais c'est un bel endroit pour attraper les phoques. Mais seuls les plus braves peuvent le faire. Parce que parfois, la glace, elle casse. Et le vent ou les courants entraînent le chasseur. Avec un peu de chance, il revient. S'il n'a pas de chance, il disparaît. Le jeune garçon, mon jeune orphelin, maladroit, il a bien vu que les chasseurs étaient tous sur la banquise, au-dessus de leur trou, de la glou. Puis lui, il était dans le campement, qu'ils avaient installé, un peu caché. Puis il rêvait de devenir un chasseur. À un moment donné, il a trouvé un petit bout d'os, morceau d'os de phoque qui était là. Et il s'est rappelé de son grand-père. Il s'est rappelé avoir vu son grand-père faire quelque chose qu'il n'avait pas compris sur le moment. Il s'est dit, je vais faire comme mon grand-père. Il a pris ce os, puis il s'est dit, je l'envoie en l'air. Si cet os retombe du côté sombre, je resterai toujours maladroit. Si cet os retombe du côté clair, je serai un grand chasseur. Il a pris l'os, il l'a envoyé en plein ciel. Et l'os est retombé du côté clair. Le jeune garçon savait qu'il pouvait être un chasseur. Il est allé voir les autres, il leur a dit « Je veux chasser ». Tout le monde s'est moqué de lui. On lui a dit « Allez, retourne au campement, puis occupe-toi de la cuisine, fais quelque chose pour nous. T'es juste bon à faire les tâches de femme. » Lui, il n'a rien dit. Il a attendu que les chasseurs reviennent, bredouille, pas un n'avait pris un phoque. Il a attendu qu'ils se couchent tous pour se reposer. Il a pris un harpon et il est parti sur la banquise. Il n'est pas allé là où il y avait les trous de respiration. Il est allé juste au bord, là où il y a les eaux qui fument. Il s'est installé juste sur une plaque de glace. Et là, il a appelé les phoques. Et les phoques sont venus parce qu'ils savaient que lui était devenu un grand chasseur. 2, 3 phoques. Il a tué les 3 phoques, il les a remerciés. Il les a remerciés d'être venus l'aider à prouver qui il était. Il est reparti avec les 3 phoques. Et quand il est arrivé au campement, tous les autres se sont demandé où il avait pris ses phoques. Il leur a dit, je les ai tués. Toi, celui qui mange chez main, t'as tué les phoques? Voyons donc. Il leur a dit, bien, je vais vous montrer. Suivez-moi. Alors ils sont tous partis derrière lui en rigolant. Ils sont arrivés sur la banquise près des agglous, ils ont encore rigolé. Mais quand ils ont vu l'orphelin s'en aller jusqu'au bord de la banquise, là où les eaux fument, ils lui ont tous dit, attention, n'y va pas, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas un chasseur assez adroit? Il est allé jusqu'à la partie la plus fragile de la glace. Il s'est penché, puis il a appelé les phoques. 2 phoques sont montés. Il les a tués. Les autres ont bien été obligés de se voir, de comprendre qu'il était effectivement celui qui avait tué les phoques. Il était devenu un bon chasseur de phoques. Quand ils sont rentrés dans la communauté, eh bien on a dit à tout le monde que l'orphelin, celui qui avait mangé ses mains, il les avait retrouvées, ses mains. Il avait non seulement retrouvé ses mains, mais en plus, il était devenu un grand chasseur de phoques. Mais tout le monde se demandait comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que Tarkik, frère Lune, est venu l'aider? Le temps a passé et le chasseur, l'orphelin qui n'avait plus besoin d'avoir mangé ses mains, il était devenu grand-père. Il sentait que le temps de la mort était venu. Il a fait venir ses petits-enfants et il leur a dit, en ouvrant le col de son manteau et en montrant le petit collier où il y avait un morceau d'os de phoque, il leur a dit, il ne faut jamais douter de ce que l'on peut faire, de ce que l'on veut faire. Et quelquefois, il suffit d'un petit bout d'os de phoque et d'y croire assez fort pour que ça arrive. Je vous le souhaite de le faire. D'accord, Mick. Here. Ce fameux chant de gorge, les Blancs ont toujours cherché des tas d'interprétations mystiques, mythologiques et tout ce que vous voulez sur le chant de gorge. Je pense qu'on vous l'a dit, c'était un passe-temps. Il reste qu'on se demande quelquefois d'où ça vient. Alors il y a quelques histoires inuites qui racontent que c'était les esprits, autrefois, qui pour tromper les humains, imitaient des bruits de la nature. J'ai décidé d'inventer une histoire qui est un hommage aux femmes inuites, parce que quand on parle du Grand Nord, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, on parle toujours de ces grands aventuriers, on parle de ces gens qui partent en exploration, on parle de ces chasseurs, Nanook of the North, et on oublie les femmes. Et je dis toujours, en plaisantant, sans que ça soit une plaisanterie, le grand chasseur, Nanook, pour ceux qui ont vu le film Nanook of the North de Flaherty, le grand chasseur dont on parle tellement, s'il n'avait pas des bonnes bottes aux pieds, des bonnes kamiks, il n'aurait jamais été un bon chasseur. Or, qui faisait les kamiks ? Les femmes. Et sans les femmes, la culture inuite n'existerait pas comme elle existe. Alors, j'ai décidé de faire un cadeau aux femmes inuites que j'ai croisées, entre autres une aînée de Kangisoudjouak, Mitiartchukanaanak, que j'aime beaucoup, qui m'a dit un jour qu'elle pourrait presque être ma grand-mère. J'ai décidé de lui créer cette histoire que je vous raconte, qui est l'histoire, à un moment donné, d'une enfant qui est née à une époque où, effectivement, le Grand Nord n'était peut-être pas ce qu'il était. Le monde était différent, il n'y avait ni arbre ni chemin. Mais un jour, l'enfant est né. Et le père, pour respecter la tradition, il a pris cet enfant qui était une petite fille. Il est sorti de l'igloo. Il a fait 3 fois le tour de l'igloo dans le sens du mouvement de la lune. Et puis, il a posé le bébé sur une peau d'ours. Et là, il y a un rayon de lumière qui est venu s'installer juste sur le visage de la petite fille. On l'a appelée Kidlanek, celle dont les yeux brillent comme la lumière sur la glace. Et Kidlanek, elle a grandi comme tous les enfants inuits. Elle a appris tout ce que sa mère lui avait appris. Ce qu'elle aimait surtout, c'était quand son père partait avec elle pour lui montrer les choses dans la toundra, pour lui apprendre à observer, à écouter. Ce qu'elle aimait, c'est quand son père lui disait « Un jour, tu pourras prendre le kayak. » Elle est devenue un peu plus vieille et elle adorait monter dans le kayak et puis tout simplement laisser le kayak glisser sur l'eau et écouter juste comment l'eau frôle la peau du kayak, comment l'eau glisse sur les plaques de glace. Elle aimait ça, jouer après avoir fait le travail, à jouer avec les os ou à jouer avec les œufs de ficelle, mais ce qu'elle aimait le plus, Kidlanek, c'était partir toute seule, s'éloigner du village, loin des bruits, dans la toundra. Et là, elle grimpait sur une petite colline, elle s'asseyait, elle fermait les yeux et elle écoutait tous les bruits du silence. Elle arrivait à entendre les pas de l'ours sur la glace, le frôlement du phoque quand il descend dans son trou, le renard. Elle entendait même quelquefois le frottement des ailes de corbeaux dans le ciel. Elle entendait tous ces bruits et tous ces bruits rentraient à l'intérieur d'elle parce qu'elle faisait partie de ce pays et de ce paysage. Et puis elle a vieilli, Kidlanek, elle est devenue une jeune fille que les garçons ont commencé à regarder, mais elle ne s'intéressait pas trop aux garçons. Elle préférait partir dans la toundra seule et puis elle a écouté tous ces bruits du silence. Quelquefois quand même, elle savait bien qu'il y avait des garçons qui la suivait en arrière. Alors elle leur jouait des tours. Elle se cachait derrière un rocher et elle imitait les grognements d'ours parce qu'elle avait appris à le faire. Et puis, le temps a passé parce que dans la vie, il passe comme dans les histoires. Kidlanek est devenue une jeune femme. Et un jour, elle était au milieu de la toundra. Elle était assise sur sa roche. Elle a senti comme quelque chose d'étrange. Elle avait les yeux fermés et elle a senti qu'il y avait comme une présence qui l'enveloppait, quelque chose de doux, de tendre qu'elle n'avait jamais senti. Elle était tellement heureuse, tellement bien, qu'elle n'a pas ouvert les yeux. Et puis, à un moment donné, elle s'est demandé qui venait de l'envelopper comme ça. Alors, elle a décidé de regarder. Il n'y avait personne. Elle a eu peur parce qu'elle a cru que c'était probablement encore les esprits. Elle était tellement inquiète que, d'un seul coup, elle a entendu une voix qui lui disait « Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas me voir. » Mais ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je suis Anuric, le maître des vents des quatre points cardinaux. Et ton regard est tellement beau, tes yeux sont tellement beaux, que j'ai envie de t'apporter un petit peu de ce que je suis. » Elle était quand même un peu inquiète. Il l'a rassurée parce que lui, Anuric, le maître de vent des quatre points cardinaux qui voyageait à travers le monde, eh bien, il a commencé à lui raconter comment on vivait ailleurs. Et il lui a surtout apporté les effluves des autres pays. Et Anuric, le nomade, Kidlanek, celle dont les yeux brillent comme la lumière sur la glace, sont devenus deux grands amis. Deux grands amis qui se voyaient régulièrement, même si Anuric, le vent, le maître des vents, partait régulièrement. Mais à chaque fois qu'il revenait, il ramenait des effluves nouvelles, des choses nouvelles pour Kidlanek. Et un jour, Anuric est revenu. Il a entendu le chant de Kidlanek. Mais il n'avait jamais entendu le chant comme il l'entendait. Il s'est approché d'elle, il l'a enveloppée comme il avait coutume de le faire. Il a senti qu'elle frissonnait pour la première fois. Alors, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il lui a demandé qu'est-ce que c'était que ce chant. Elle lui a dit que c'était le chant qui sortait de son cœur et qu'elle destinait à un homme de son clan qui l'avait choisi elle et que c'est pour ça qu'elle chantait. Anuric, le maître des quatre points cardinaux, est rentré dans une profonde crise de jalousie. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre chante. Il ne voulait pas qu'elle chante pour quelqu'un d'autre. Il ne voulait qu'Anuric. Anuric, lui, le maître des quatre points cardinaux, voulait que Kidlanek chante pour lui seul. Elle lui a dit non. Kidlanek lui a dit « Je ne peux pas. Cet homme, je l'aime, il m'aime, il m'a choisi. Tu es mon ami. Je resterai tout le temps ce que je suis. Mais mon chant lui sera destiné. » Anuric, il a pris cette réponse comme une insulte, comme une gifle. Il est parti en lui disant qu'elle regretterait. Elle regretterait son attitude. Et puis pendant des lunes et des lunes, eh bien, on n'a plus revu Anuric. Que ce soit sur les eaux bleues, que ce soit sur la glace ou dans la toundra, pendant des lunes et des lunes, Anuric, le maître des vents des quatre points cardinaux, avait disparu. En fait, il était parti chercher l'outil de sa vengeance. L'outil de sa vengeance, il est allé le chercher dans le monde des esprits. Quand il a expliqué aux esprits ce que cette femme avait fait, les esprits ont trouvé qu'elle avait été bien indécente de ne pas respecter le désir d'Anuric. Alors ils lui ont donné les outils de sa vengeance. Anuric, quand il est revenu, il a plongé le monde de Kidlanek dans le noir le plus total, le plus absolu. Les humains ne comprenaient pas ce qui se passait. Très rapidement, dans le clan, les gens ont commencé à avoir peur. Ils ont demandé aux chamans de traverser la peau du tombeau sacré, de descendre, demander aux esprits pourquoi, pourquoi une telle punition, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Mais même le chaman avait peur de traverser la peau du tambour. Alors les hommes ont commencé à se battre, à s'entretuer. Kidlanek, quand elle a vu ça, elle a bien compris ce qui s'était passé. Elle a réuni toutes les femmes du village et elles sont parties dans la toundra, dans une petite vallée. Elles se sont assises en cercle. Elles se sont prises par la main et Kidlanek leur a dit aux femmes « C'est Anuric qui cherche à se venger. » Elle a expliqué aux femmes ce qui s'était passé. Et une des vieilles femmes a dit à ce moment-là que c'était la fin du monde inuit, qu'on ne pouvait rien contre un esprit. Kidlanek, au contraire, elle leur a dit « On ne peut pas se laisser vaincre par la violence même d'un esprit. » Si on est capable de retourner dans notre village et de montrer aux hommes, par nos gestes et par nos attitudes, qu'on peut leur redonner la chaleur, la tendresse et la vie, on aura battu la violence de ce personnage. Alors elles sont retournées au village. Et de geste en geste, elles ont ressemé dans le cœur des hommes la chaleur, la tendresse, la douceur. Et la vie a recommencé. La colère d'Anuric a été encore pire qu'avant. Anuric n'a pas aimé. Il est allé voir les forces du froid, les forces de l'hiver. Il s'est allié aux forces du froid et il s'est abattu à un moment donné sur Kidlanek. Et il l'a enveloppé d'une chape de glace. Kidlanek avait beau essayer de crier ou de chanter, plus rien ne sortait de sa bouche. Les femmes, elles, À un moment donné, elles ont bien vu qu'Ilanek n'était pas revenu. Elles sont parties dans la toundra et elles ont vu ce bloc de glace et dans le bloc de glace, Kidlanek, prise dans la glace. Alors aussitôt, les femmes ont entouré le bloc de glace, ont posé les mains dessus pour essayer de le faire fondre, mais il ne s'est rien passé. Les femmes se sont toutes retournées, ont fait un cercle et toutes les femmes de ce cercle ont pointé les quatre points cardinaux. Et lentement, on a entendu sortir de leur gorge les chants du silence, les bruits du silence. Le phoque qui glisse dans la glace, la patte de l'ours, le feulement du renard, le froissement des ailes de corbeau. Tous ces sons-là sont sortis de la gorge des femmes et se sont répandus aux quatre points cardinaux. Anuric était hors de lui, mais les esprits qui lui avaient donné l'outil de sa vengeance, les esprits, quand ils ont entendu le chant de ces femmes, ils ont trouvé qu'elles étaient bien plus courageuses que celui qui avait abusé de son pouvoir. Les esprits ont chassé Anuric dans les terres noires, au fond du monde des esprits qui ne servent plus à rien, sachant que les quatre points cardinaux pourraient se passer de lui. Kidlanek, elle est restée prise dans la glace. On n'a jamais revu Kidlanek, mais dans le cœur de chacune des femmes, Kidlanek était venu s'enraciner. Et depuis ce temps-là, les femmes ont gardé en coutume, en mémoire de Kidlanek, même si on l'a oublié de nos jours, les femmes ont gardé ces chants qui sortent de leur gorge, ces chants qui imitent ces bruits qui sont nés de la nature. C'est comme ça que sont nés les chants de gorge. C'est ce qu'on raconte. Alors, pour la dernière partie du voyage, on va vous laisser, s'il y en a qui ont des questions à poser, on va vous laisser les poser, parce que je pense qu'il y a des choses probablement qu'on peut vous dire. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas un Inuk, je suis un Blanc, un Ranoulak. J'ai cette passion du Grand Nord, j'ai cette culture que j'aime, mais ce n'est pas à moi d'en parler. Lorsque les Inuits sont là, je vous glisserai simplement deux choses. C'est une culture qui mérite d'être découverte et connue autrement que par les stéréotypes. Les stéréotypes, on les connaît. C'est une culture qui fait qu'aujourd'hui, les Inuits vivent dans le monde moderne, même si ça dérange les Blancs quelquefois. Et c'est une culture surtout qui a subi tellement de choses. Et je veux glisser juste une anecdote. Je n'en ferai pas plus. Dans les années 1950, dans tout le Nunavik et une partie du Nunavut, on a voulu sédentariser les Inuits pour qu'ils restent dans les postes de traite et qu'ils deviennent attachés au mode de vie des Blancs. Bien sûr, les Inuits avaient l'habitude de se déplacer avec leur traîneau à chiens, ils étaient très autonomes. Alors, ce qu'on a décidé de faire, le gouvernement canadien, c'est qu'on a décidé qu'il y avait une épidémie de rage parmi les chiens. Et on a envoyé la GRC exterminer tous les chiens du Grand Nord pour sédentariser les Inuits sous prétexte d'une épidémie de rage qui n'a jamais eu lieu. Les enfants qui vont à l'école, c'est un peu la même chose. Je pourrais vous raconter quelques histoires d'horreur, mais je ne le ferai pas. Alors j'ai juste le goût de laisser la parole maintenant à nos deux chanteuses qui sont là, en vous disant Nakormik, puis en vous laissant parler de votre culture. Et puis moi, je vous souhaite simplement une bonne fin de voyage à tout le monde. Merci.
Merci. On va vous chanter.
Est-ce que ça marche toujours? Oui.
On va vous chanter une dernière chanson. Et avant, je parlais que je t'ai élevée dans des cultures très différentes. Je suis honorée et heureuse que mes parents sont là pour me voir comme je suis aujourd'hui. Et on va faire une dernière chanson. Puis on répondra à vos questions après.
Ma
Merci.
Y a-t-il des micros qui marchent? Si vous avez des questions, des commentaires.
Des personnes qui ont des questions?
Oui, il y en a ici.
Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans ces chansons? Par exemple, il y a une personne qui guide et puis l'autre qui suit des dessins ou est-ce que ce sont des chants établis?
C'est des chants établis, mais c'est des sons qui sont prédéterminés pour chaque chant, mais on peut changer entre un son ou l'autre. Et l'idée, c'est de faire rigoler ou de faire arrêter l'autre personne, alors que c'est pour ça qu'on change souvent. Mais les chants sont supposés d'être de se ressembler. On tire les sons de notre environnement. Alors, parfois, c'est des oiseaux, c'est des outils. On a fait le scie, la scie. Puis, on a fait un qui s'appelle la rivière. Alors, c'est des sons particuliers pour chaque chant.
Donc, les rythmes changent?
Pardon?
Les rythmes, vous les inventez?
Non. Les sons de chaque chant? Non, c'est toujours le même rythme, mais... Parfois, on va plus vite. Alors, oui, c'est ça. Oui, toi?
C'est que est-ce que les chansons peuvent se faire à une personne seulement?
Bonne question. on peut pratiquer tout seul, mais ça se fait toujours à deux. Parce que c'est comme un frère Jacques. Une personne commence, puis l'autre personne commence après. C'est comme un rond. Puis on va faire tranquillement, doucement. Alors, combinaison de ce son 2 fois 1 comme un rond, ça donne le son de chant de gorge.
Mais moi, je connais une femme qui le fait toute seule, mais ce n'est pas le chant de gorge traditionnel. C'est quelque chose d'autre. Ça a les mêmes sons, mais elle la change un petit peu pour qu'elle peut le faire toute seule. Mais ce n'est pas le même effet, parce que si on le fait ensemble, ça a l'apparence que c'est plus que deux personnes parfois. Est-ce que tu as entendu ça? Oui? Non, tu n'as pas entendu.
Il y a d'autres questions, des commentaires? Ça se fait à plus que deux, oui. Oui. Ça se peut faire à trois ou à quatre. Ou...
Mais vu que ça consiste du son mélodique, de, comme une chanson, puis du son guttural, c'est deux niveaux qui sont comme ça. Si ça se fait en groupe, c'est toujours les deux niveaux qui continuent, même si c'est plusieurs personnes.
Je répète.
Oui.
Oui, vraiment, parce que...
YouTube.
Oui, YouTube. On est sur YouTube. Non. Mais il y a du monde qui mélange le chant de la gorge avec de la musique contemporaine ou classique. Même, j'ai fait une tournée avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y avait une pièce... Pardon? Oui, la tournée du Nunavik. Puis... Oui, même aussi, on avait fait quelque chose avec l'OSM il y a quelques années. Puis c'est de la musique classique, une pièce qui était commissionnée par l'Orchestre symphonique de Montréal pour incorporer du chant de gorge. Même aussi, je ne sais pas comment le dire en français, mais sampling, on prend des sons.
Des échantillons, oui, des échantillonnages.
Oui, il y a du monde qui prend des échantillons puis les mélange avec la musique techno ou quelque chose. Puis ça fait peur parfois aux aînés parce que ils ne veulent pas qu'on perde notre tradition, qu'on le pollue, mais c'est quelque chose que les jeunes font. Alors, pardon?
Ça se transforme.
Ça se transforme, oui. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est toujours des chants traditionnels.
Je vais peut-être ajouter un détail pour les gens. On associe traditionnellement le chant de gorge à la culture inuite, mais on retrouve aussi le chant de gorge chez un groupe asiatique qui est au nord de la Mongolie, les Tchouks, qui pratiquent aussi du chant de gorge, un chant de gorge superbe, qui est très semblable, mais c'est normal, puisqu'en fait, à l'origine, les Inuits viennent probablement de cette région-là, il y a à peu près 25 000 ans, quand ils sont passés au nord du détroit de Bering.
D'autres questions? Oui?
Premièrement, de faire des sons comme ça, c'est rigolant, déjà. Puis là, je vais te raconter quelque chose. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé de faire le chant de gorge, je pratiquais tout seul, soit à la maison, en travaillant. Puis là, j'étais dans une arrêt d'autobus. Puis là, parce que les sons, il faut travailler le gorge, le diaphragme. Puis je partais à faire... Il fallait pratiquer ça. Puis là, il y a les personnes à côté de moi qui s'éloignaient parce qu'elles pensaient que j'étais folle. Puis c'est d'être si proche de quelqu'un puis de se répéter, on rigole. Ça fait partie du... Ouais. Oui? Quand j'étais enceinte avec ma fille, je faisais la chant de gorge. Alors, depuis, dans le ventre, elles connaissent le son, elles connaissent même. Puis, de plus en plus, les jeunes, ils apprennent le chant de gorge. Avant, c'était en train de se perdre comme tradition. Puis, il y a peut-être 45 ans, 50 ans, que c'est redevenu comme ça se pratiquait de plus en plus. Puis, aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes filles commencent à savoir comment faire le chant de gorge. Il y avait une autre question?
D'habitude, on dit que c'est les femmes qui font le chant de gorge, mais il y en a des hommes qui font le chant de gorge.
Avec le tambour.
Mais c'est toujours les mêmes chants.
Il y avait une vieille tradition, mais qui est perdue depuis très longtemps, qui s'apparente d'ailleurs aux thérapies. C'est que lorsqu'il y avait des conflits entre les groupes d'hommes qui partaient à la chasse, on ne pouvait pas régler les conflits sur place au moment où on chassait, parce qu'on risquait effectivement de faire partir les troupeaux. Donc, comme la survie collective était fondamentale, on attendait le retour au sein du groupe. Et ce qui se passait, c'est que souvent, quand il y avait un conflit entre deux hommes, tout le groupe se réunissait. On demandait aux deux hommes de se mettre face à face. Celui qui se sentait victime devait, en chantant, expliquer pourquoi il se sentait victime. Et à l'inverse, l'autre devait expliquer en chantant pourquoi il considérait qu'il n'avait pas victimisé l'autre. Je peux vous dire que ça devenait une thérapie par le rire, probablement. Ce qui fait que, ou bien ça se terminait dans un éclair de rire général, ou bien ça se terminait effectivement par une tradition que vous avez peut-être vue dans un film qui s'appelle Atanard Jouat, ceux qui l'ont vu, L'homme qui courait, où à un moment donné, les deux se mettaient face à face, une main dans le dos, et celui qui se sentait qu'avait été victimisé frappait avec son poing sur la tempe de l'autre en face qui ne devait pas bouger. Et le coup étant donné, l'autre répliquait, chacun leur tour, jusqu'à ce que l'un des deux tombe. Et celui qui était tombé est celui qui avait tort. Mais ça ne se fait plus depuis belle lurette. Hein.
Oui, ça veut dire, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui a un ombre, mais c'est aussi un outil pour se cacher lors de la chasse à phoque sur la glace.
Et mon nom aussi a un sens. Nina, ça s'appelle Perle. Oui, mais c'est un nom juif que mon père m'a donné. Puis, ouais. C'est pas Inuit, là, mais quand même.
Pardon? Ça veut dire la terre où on vit. Oui. Nuna, ça veut dire la terre. Comme Nunavut, le territoire, ça veut dire notre terre, notre... Oui. Oui. Il y en a beaucoup de mots, mais moi, j'en connais un mot, oui. Apothique.
Apothique. Flocon de neige. Oui.
Oui.
Mais les...
Apothique.
Mais ces mots-là avaient un sens, je vais peut-être juste amener, ces mots-là avaient un sens à l'époque où les Inuits étaient totalement en lien avec l'environnement dans lequel ils vivaient, c'est-à-dire qu'un chasseur, quand il partait, il devait être capable d'évaluer effectivement quel type de neige tombait, dans quelle direction, comment elle s'accumulait, pour être capable d'évaluer s'il devait continuer son trajet ou s'il devait revenir, s'il devait s'arrêter pour construire un abri ou pas. Alors qu'aujourd'hui, avec les motoneiges, ils n'ont plus besoin de se poser cette question-là. Donc on perd une partie de la langue parce que la langue était très en lien avec la réalité culturelle, géographique dans laquelle on vivait.
Merci beaucoup.
Merci, d'accord, mais...